oscillation atemporelle. Et si le dimanche à 19h était le moment d'une autre évasion sonore décalée et pas pareille sur fréquence 7, le moment d'une pause grandiose, intimiste, virtuose aussi, qui résonne de créations sonores et musicales d'au-delà de notre quotidien, ce que très largement chacun appelle selon son goût dans notre monde occidental, musique classique, musique savante ou grande musique. Les premiers et troisièmes dimanches de chaque mois à 19h, Oscillation Atemporelle vous propose de partir pour une heure à la découverte de ces musiques en suivant le fil d'une époque, d'un compositeur, d'un musicien, d'un instrument, d'un orchestre ou chef d'orchestre ou d'une forme musicale. Cela agrémenté de l'histoire dans l'histoire des œuvres diffusées, de petits potins et de la raison en toute mauvaise foi passionnée de leur choix. Oscillation Atemporelle est animée par Marie au micro et à la conception, avec la complicité de Philippe Forger et le soutien technique de Sylvain. Pour ce mois de février, je vous entraîne à la découverte d'un instrument envoûtant qui fait vibrer les sens lorsqu'il chante et magnifie les instruments qui l'accompagnent, le basson. Diffusion de cet opus les 2 et 16 février 2025. Pour une écoute à votre convenance, rendez-vous sur le site fréquence7.net en lecture directe ou téléchargée. Le basson est l'instrument qui a découvert Philippe, qui nous en parle.
Alors le basson, c'était mon instrument, donc je l'ai pratiqué, on s'est côtoyé de très près, lui et moi, voilà, le basson.
Tu l'as appris petit ?
Non, j'ai... Alors, pour la petite histoire, en fait, c'était au conservatoire à Chalon-sur-Saône et j'ai commencé quand j'étais ado, j'avais 14 ans et demi, 15 ans presque. Et c'était juste une des deux ou trois classes dans laquelle il restait encore des places. Donc, j'ai fait du basson ne sachant pas trop ce que c'était. Et puis, j'ai découvert vraiment un instrument tout à fait saisissant, tout à fait touchant aussi. Le basson... C'est pas un instrument basse, c'est l'idée qu'on peut s'en faire, c'est un instrument ténor, c'est un instrument qui chante. C'est-à-dire que dans l'orchestre, c'est un instrument qui a quand même souvent des grandes lignes vocales extrêmement mélodiques, extrêmement lyriques même. On connaît le staccato, c'est-à-dire le détaché du basson, un peu goguenard comme ça, un peu rigolo, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, et c'est un instrument qui a un ambitus très vaste, c'est-à-dire entre sa note la plus grande et sa note la plus aiguë, il y a vraiment toute une palette de possibilités gigantesques. Et plus on avance en histoire de la musique, plus les compositeurs vont utiliser toutes les ressources de l'instrument pour justement ne pas se cantonner à cet esprit un peu cocasse comme ça. Voilà. Alors le basson, il est énormément utilisé à la période baroque. On le met avec le groupe des basses dans ce qu'on appelle le continuo, c'est-à-dire on donne une certaine épaisseur à ces lignes de basse, et il va prendre son indépendance petit à petit, avec des compositeurs quand même qui estiment qu'on peut le sortir aussi de ce groupe du continuo pour lui conférer une voix soliste. Alors il y a des choses étonnamment très virtuoses qui existent pour le basson à la période baroque. Je dis étonnamment parce que c'est pas du tout l'image qu'on peut s'en... Enfin, la représentation qu'on pourrait s'en faire de cet instrument. Et par exemple, Vivaldi, donc le Vivaldi des quatre saisons, le Vivaldi de concerto pour flûte, très très virtuose, Vivaldi va lui consacrer 39 concertos. Alors 39 sur les 600 concertos que Vivaldi écrit, on se dit ça fait pas beaucoup, mais c'est quand même le deuxième corpus le plus important de tous ces concertos. Il y en a 230 à peu près pour violon, et après le groupe le plus important, c'est les 39 pour basson. Et quand on voit la difficulté technique, la virtuosité, on se dit, mais qui pouvait jouer ça à l'époque? Alors on a quelques pistes aujourd'hui, voilà, mais on sait que l'hyper-virtuosité de cet instrument était tout à fait possible et envisagée. Donc des compositeurs comme Telemann, comme Zelenka, si on reste dans la période baroque, vont écrire pour cet instrument. Et on sait aussi que Mozart a composé 3 concertos pour basson, mais il n'en reste qu'un. On a perdu les 2 autres. On a perdu les 2 autres, et ce concerto de Mozart, qui est en si bémol majeur, est un concerto qui est très chantant, qui est très lyrique, et qui n'est pas du tout dans cette espèce de caricature de staccato, de pom-pom-pom-pom, comme je fais depuis le début. Haydn, à la même période, donc là on est dans les années 1800, lui va écrire à la toute fin de sa vie une symphonie concertante pour hautbois, basson, violon, violoncelle, tout ça c'est 4 solistes, et orchestre, qui est une œuvre vraiment, vraiment magnifique. En musique de chambre, on va le trouver assez régulièrement, mais pas autant que le violon, le violoncelle, le piano pour la période baroque. Donc la période romantique, pardon. Donc Brahms n'a pas vraiment écrit pour basson, Schumann n'a pas vraiment écrit pour basson, Tchaïkovski non plus, si ce n'est à l'orchestre. Et là, on va trouver des partitions de plus en plus exigeantes, mais aussi de plus en plus colorées, parce qu'on va vraiment explorer toute la palette expressive de l'instrument. Et on se retrouve à la fin du 19e siècle avec des Berlioz, des Korsakov, puis après, un petit peu plus tard, des Stravinsky, qui vont produire des merveilles avec cet instrument. Et il y a quelque chose qui est assez drôle, c'est le Sacre du printemps de Stravinsky commence par un solo de basson, vraiment un solo, hein, tout nu dans l'aigu, il n'y a rien autour. Hein. Et c'est très 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 haut, et c'est très dur à jouer. Et au fil des années, Stravinsky a eu l'habitude de l'entendre de mieux en mieux jouer, puisque l'œuvre a été composée et créée en 1913, mais que Stravinsky l'enregistrait encore lui-même dans les années 60. Donc entre 1913 et 1960, les instrumentistes ont pris le temps de bien travailler le solo. Et Stravinsky finissait par dire aux musiciens « Mais vous jouez trop bien, c'est pas du tout comme ça que je l'ai pensé, moi. Il faut que ce soit douloureux, il faut que ce soit difficile, il faut qu'on ressente la difficulté. » Donc c'est un instrument qui est plein de ressources et qui est assez méconnu. Alors oui, le grand-père de Pierre et le Loup, oui, l'apprenti sorcier, mais aussi vraiment le concerto de Mozart pour basson ou le concerto pour flûte, basson et cordes de Telemann, par exemple, sont vraiment des œuvres magnifiques.
Alors, c'est un instrument de quelle famille ?
C'est la famille des bois.
Donc, il est en bois ?
Il est en bois. Si c'est un basson français, parce qu'il y a deux factures instrumentales, le basson allemand et le basson français. Si c'est un basson français, c'est du palissandre. Et si c'est un basson de facture allemande, ce qu'on appelle un fagot, c'est un érable. Et c'est un instrument à hanches. C'est-à-dire qu'il nous faut des petites languettes de roseau. Il en faut deux. C'est une hanche double, comme le hautbois, dans laquelle on va pouvoir produire un son. Et puis quand on va mettre cette hanche double sur l'instrument, au moyen d'un bocal, qui est un grand tuyau absolument, en métal, qui va relier l'hanche au bois de l'instrument, on a effectivement la possibilité d'une sonorité plutôt très douce, très ronde, et d'un instrument ténor, je le redis.
Donc c'est un gros hautbois ?
Ah oui, c'est absolument la même famille que le hautbois, absolument. Et il y a un magnifique trio de Poulenc, Francis Poulenc, pour hautbois, basson et piano, qui vraiment fait que ces deux timbres, hautbois et basson, vont se marier avec beaucoup d'intimité, beaucoup de chaleur, beaucoup de tendresse.
Les compositeurs mis à contribution aujourd'hui pour leurs œuvres destinées au basson sont Johann Wilhelm Hertel, ses dates 1727-1789, Karl Maria von Weber, 1786-1826, Pierre-Max Dubois, 1930-1995, et Francis Poulenc, 1899-1963. Oscillation atemporelle et paradoxalement temporellement contrainte à une heure et non deux ou trois. Ouf. J'ai donc dû faire des choix et ce ne fut pas simple du tout parce que, outre le fait que les œuvres diffusées ici sont entières, j'ai un goût immodéré pour le baroque et néanmoins et nonobstant envie de vous faire découvrir des époques et des formes différentes et décalées. Je mettrai sur le site de Fréquence 7 ce que nous avons écouté et ce que nous n'avons pas écouté. Il y a toujours des solutions. Pour commencer, c'est le concerto en si bémol majeur de Johann Wilhelm Hertel, qui date de 1760, pour basson, cordes et basse continue, avec un premier mouvement allegro, ensuite adagio, ensuite allegro ma non troppo. Au basson baroque, Sergio Azzolini, le Capriccio Baroque Orchestre est dirigé par Dominique Kieffer. L'enregistrement est de 2010. Thank you.
Thank you.
Faisons un saut temporel de 2 siècles pour la suite, qui est une sonatine tango de Pierre-Max Dubois, composée en 1984. Au basson, Bram van Sambeek, au piano, Hélène Corver. C'est une œuvre courte en 4 mouvements, le premier violent et animé, le deuxième scherzando, le troisième tempo de sarabande et le dernier vivace. L'enregistrement et de 2011. Thank you. Vous êtes précieusement différents comme votre radio préférée et aujourd'hui Fréquence 7 Chaloupe au son du basson. À suivre le concerto en fa majeur de Carl Maria von Weber, opus 75, composé en 1811. Il est interprété par l'orchestre de la radio-télévision espagnole sous la direction de Zoe Tsokanou avec Maria José Arriello au basson.
Thank you.
Le trio pour hautbois, basson et piano a été composé par Francis Poulenc en 1926 et dédié à Manuel de Falla. Il est en trois mouvements, presto, andante, rondo, et nous l'écoutons interprété par Elisabeth Tission au hautbois, Andrew Brady au basson et Alexander Wasserman au piano.
Thank you. Thank you.
Oscillation atemporelle est terminée. Rendez-vous en mars pour un nouvel opus. D'ici là, portez-vous bien.